Nous avons le grand plaisir de recevoir Maxime Denommé, qui incarne Dracula, dans la pièce intitulée « Dracula, un nouveau règne du mal » qui est présentée au Théâtre Denis Pelletier très bientôt, à partir du 17 mars, donc dans une semaine jour pour jour, et ce jusqu'au 14 avril. L'adaptation est de Marie-Claude Verdier et c'est Frédéric Dubois qui enseigne la mise en scène. Bonjour Maxime.
Bonjour, bonjour.
Merci d'être là. Maxime, qu'est-ce qui vous a donné envie d'accepter le rôle de Dracula?
Ah ben, je me rappelle, c'est Claude Poisson, feu Claude Poisson, mon ami qui...
Oui, ancien directeur artistique du Théâtre Denis Pelletier qui est décédé trop vite malheureusement.
Oui, qui m'a appelé pour m'offrir ce rôle. En fait, il m'a appelé pour me raconter l'histoire, son projet qu'il y avait avec Marie-Claude Verdier d'adapter Dracula. Et après m'avoir raconté toute l'histoire, j'ai dit « Oui, mais c'est pour quel rôle? » Puis là, il fait « Mais Maxime, tu vas avoir 50 ans, là, c'est pour Dracula. »
Ah, oh, parce que Dracula a 50 ans?
Oui.
Je pensais qu'il était éternel.
Oui, c'est ça. Absolument. Ouais. Il cherchait peut-être...
Un comédien de métier?
Oui. Puis, ben, en fait, c'est que c'est comme les nouveaux méchants. C'est drôle parce que mes derniers rôles sont souvent des méchants.
Mais pour ça, je me sens les méchants.
Oui, oui, c'est vraiment le fun. Mais c'est comme... C'est la nouvelle façon de caster les méchants. C'est des gens qu'on... Mon Dieu, qu'on s'attendait pas à ça.
Ah oui. Mais c'est drôle quand même. Quand on est comédien, on est supposé de pouvoir jouer tout.
Oui.
Mais il y a encore des espèces de préjugés.
Oui, mais c'est bien justement qu'on aille dans l'anti-casting. Là.
Oui, ça, ouais. Ça vous fait plaisir.
Oui, absolument.
Oui, oui, oui. Ouais. Est-ce que vous diriez que vous avez des rôles de plus en plus intéressants, plus vous avancez en âge? Vous êtes tellement vieux.
Non, non. J'ai toujours eu des rôles intéressants.
Ouais. Ouais. Autant au théâtre qu'à la télévision.
Oui. Cette année, c'est vraiment plus le théâtre qui m'occupe. Ouais.
Maxime, quel genre d'adaptation Marie-Claude Verdier a créé à partir de l'œuvre de Bram Stoker?
Ben, Marie-Claude Verdier, faut dire aussi qu'il y a 25 ans, je jouais Les Urbains à Fred Barry au théâtre Denis Pelletier. Puis on jouait un de ses contes qui était. Elle avait gagné un concours comme adolescente.
Ah ouais.
Alors ça fait très drôle de la retrouver 25 ans plus tard. Maintenant qu'elle est autrice professionnelle, elle a voulu mélanger le mythe de Dracula avec la nouvelle réalité des multimilliardaires de Silicon Valley. Alors, elle s'est très beaucoup inspirée de Peter Thiel, qui est le fondateur de l'agence Palantir, vraiment est très influente présentement. C'est une compagnie qui canalise des données. C'est une base de données, mais ils ont une influence sur la sécurité. Ils sont vraiment... C'est une compagnie qui est méconnue, mais qui a vraiment...
Qui a du pouvoir.
Dernièrement, qui a vraiment beaucoup de pouvoir aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en France, en Ukraine. Les gens, les gouvernements, en fait, sont au service des gouvernements et des grandes entreprises. Et les gouvernements s'en servent de ces bases de données-là pour les guerres. Ça sert... C'est une compagnie d'intelligence artificielle qui sert... aux guerres présentement. Là, ça a servi à l'Ukraine, là, ça sert pour l'Iran. C'est une IA qui ils ont toutes les données. Ils ont toutes les données de tout le monde avec les caméras de surveillance. Alors, ça a servi à ICE, la police de l'immigration. Ça sert aux guerres et autant aux entreprises pour mieux cibler. Tu sais, il y a quelques années, il y avait Cambridge Analytica qui avait fait rentrer Trump la première fois. C'est parce qu'ils ont aussi recours aux réseaux sociaux pour influencer le vote. Alors, c'est vraiment dangereux. C'est épeurant, en fait. C'est comme un peu la fin de la démocratie parce que pour ces hommes-là, la démocratie, c'est juste un obstacle, en fait. C'est pas important.
Ouais.
Fait que c'est vraiment...
Ils n'ont pas de principe.
C'est un cauchemar, là. on parle de ça, Marie-Claude nous en parle, et on se rend compte après, dans l'actualité, que c'est présent. C'est même pas une dystopie, on est là-dedans. Fait que, elle a voulu mélanger un peu le mythe en respectant les trajets de chaque personnage, du conte de Dracula, mais dans la réalité de Silicon Valley de notre époque. Alors, Jonathan est un jeune... c'est le jeune premier là, qui se rend à la maison de Dracula. Il veut lui vendre une application...
Dracula, il vit où?
Est-ce que c'est nommé? C'est pas dit. C'est comme une espèce de gros bunker. C'est probablement en Californie. C'est un gros bunker où il fait froid, mais c'est pour la conservation des tissus humains et c'est pour aussi les serveurs, parce que c'est vraiment...
Ça chauffe.
Oui, c'est ça. Ouais. Fait que Jonathan, il se rend là pour vendre une application. C'est comme une espèce de bague qui donne toutes les informations sur le taux de sucre, l'hémoglobine.
Ah oui, après la montre, la bague?
Oui, c'est ça. Ouais. C'est un peu... ce que Elizabeth Holmes a essayé de faire, mais c'était de la fraude, finalement. C'est un peu cette idée-là, mais qui fonctionne.
Et, est-ce que Jonathan sait où il va? Est-ce qu'il sait à qui il va
avoir
affaire?
Ah oui, il veut absolument. C'est comme aller voir Elon Musk pour y vendre son truc.
Ouais.
Alors, tout le monde est très admiratif de
ça pourrait être Dracula Musk?
Oui, absolument.
Ouais.
Ou Peter Thiel. Il est moins connu, mais encore plus dangereux.
Et est-ce que c'est ben, j'imagine que c'est jouissif, composer un personnage comme celui-là. Là, comment vous le travaillez? Comment vous l'avez construit?
Je le construis toujours, en fait. Ouais. Il me reste une semaine. Ben, c'est en m'informant, en restant curieux, mais concrètement, c'est juste en essayant d'honorer le texte pour ce qu'il est. Essayer d'afficher cette espèce de confiance et ce désir d'immortalité. En fait, ce qu'il cherche, c'est une réponse, c'est un algorithme qui va lui permettre, maintenant qu'il y a toutes les données du monde, parce qu'il crée un dispositif personnel d'intelligence artificielle, mais en fait, c'est pour avoir les données de tout le monde. C'est là où il y a le lien avec le sang qu'elle fait, Marie-Claude. Mais lui, ce qu'il cherche, c'est l'immortalité, en fait. Et c'est ce qui est drôle, c'est que c'est pas si loin, parce que dernièrement, on a entendu Poutine et Xi Jinping avoir une conversation intime où ils parlaient de ça.
Mm-hmm.
C'est nos comment nos.
Comme vous dites, vous n'êtes pas dans une dystopie.
Nos grands leaders parlent vraiment d'immortalité.
Ouais. Ouais. Est-ce que bon, il veut être immortel, mais il est quand même seul. Dans son bunker?
Ben, il est avec son acolyte, qui est Lamia, qui a créé, en fait, l'intelligence artificielle. C'est comme si c'était Siri, mais elle s'appelle Lamia.
Jouée par Noémie.
Evelyn Gelina.
Ah, Evelyn Gelina, ouais. D'accord.
Puis elle est un peu inspirée de Ghislaine Maxwell. Voyez-vous, elle s'inspire vraiment de...
La conjointe d'Epstein.
Oui, absolument. Qui va recruter des jeunes. Parce que ces gens-là, dans la vraie vie aussi, ils vont recruter des étudiants en informatique quantique.
Mm-hmm.
Ils leur promettent... c'est la liberté. Ils sortent des universités pour travailler pour eux.
La grosse manipulation.
Oui, absolument.
Donc, on est quoi? Dans l'horreur, la satire sociale? On sort de là, puis qu'est-ce qu'on a envie de faire? Changer le monde ou...
ben, le message...
S'enfermer dans son bunker personnel.
Se débrancher, en fait.
Ouais.
Parce que tout ça, c'est basé sur la confiance. Et tant que les gens vont être sur leur réseau ou sur le... tout acheter puis donner leur information, c'est comme... ils ont rien à se reprocher. Les gens leur donnent leur information. Fait que, dans le fond, c'est...
Ça fait
réfléchir. C'est d'en être conscient, puis de faire attention à ce qu'on met sur les réseaux, puis à quoi on participe.
Mm-hmm. Qu'est-ce qui est décourageant, c'est qu'on est conscient, on en est de plus en plus conscient, et on ne fait pas grand-chose pour changer ça.
Oui, puis c'est aussi épeurant, tu sais, de ralentir, c'est peu connu, mais c'est incroyable l'influence qu'ils ont. Ils sont en train de devenir...
les maîtres du monde.
Oui, absolument. C'est... Puis, mais ça fait peur aux gens, fait qu'on est mieux pour en parler, on est mieux de rester dans le déni puis de continuer de poster nos trucs sur Instagram.
Et j'imagine que vous n'êtes pas vraiment...
Parce qu'en fait, sur quoi ils jouent, c'est le désir de considération, qui est le désir profond de tout être humain. Ils vont...
D'être reconnus.
D'être connus, d'être connus. Puis on le voit aussi dans la pièce, Lucie, la jeune fille sacrifiée, elle est chanteuse, influenceuse. Elle veut être connue et entendue par tout le monde. Alors, c'est sûr que ces géants-là misent là-dessus.
Qui vous entoure? Vous avez parlé du personnage de Jonathan. Qui joue Jonathan?
C'est Simon Landry-Désy.
Et il y a Evelyne Gélina,
sinon... Evelyne Gélina qui joue Lamia. Il y a Noémie O'Farrell qui joue Mina, qui, elle, est une étudiante en informatique quantique. Et c'est elle qui va me fournir le bon algorithme pour me donner la réponse pour l'immortalité.
Ah oui! Ouais. Mais comme c'est un personnage qui va probablement à l'encontre de vos valeurs, là, de tout ce qu'il ouais. veut, ben, peut-être que vous voulez être immortel comme à peu près tous les êtres humains, mais sinon, est-ce que c'est... je ne sais pas, est-ce que c'est confrontant pour vous de jouer ce genre de personnage-là?
Non.
Ou c'est plutôt
En fait, c'est jouissif.
Ouais.
Oui, absolument, parce que le théâtre est fait pour nous envoyer un miroir de la société, puis le théâtre nous permet ça, nous permet de jouer ces choses horribles. Alors, c'est un privilège, en
ouais,
fait.
Oui, c'est comme une exutoire, ouais. en quelque sorte.
Oui, ben c'est vraiment un privilège de... Tu sais, si on va au théâtre, en tout cas, moi, c'est surtout pour être... choqué, dans le sens de choc.
Mm-hmm. Pas pour être diverti nécessairement.
Non, exactement. Il y a ouais. une différence entre juste le divertissement mm-hmm. puis quelque chose qui nous renvoie une image qu'on n'aime pas nécessairement. Tu sais, c'est Genet qui disait ça. Le théâtre est un miroir sur le monde. Puis si tu n'aimes pas ce que le miroir te renvoie, ben casse pas le miroir, mais change le monde.
Pose-toi des questions.
Oui,
oui, oui, oui. Est-ce qu'il y a des moments pendant les répétitions qui vous ont marqué particulièrement ou donné des frissons?
Ça s'en vient. Là, c'est sûr qu'on est en salle
dedans,
de répétition.
Ouais.
Mais quand là, on va rentrer en salle, un énorme décor, les costumes... c'est vraiment un beau terrain de jeu pour les concepteurs aussi. Fait que j'ai bien hâte qu'on mette tout ça ensemble.
Est-ce que vous acceptez de rester avec nous? Parce qu'il nous reste 30 secondes, puis j'ai encore 3-4 questions à vous poser.
Absolument.
Après la pause.
Absolument.
On vous libérerait vers 10h05, 10h10.
Très bien.
Merci, Maxime Desnommé.
Merci.
Je l'ai appelé Maxime Desnommé. C'est Denommé. Il faut le dire, une fois pour toutes, parce que je reçois toutes sortes de communiqués où on met des accents aigus sur le premier E de votre nom
ah
de famille,
oui.
mais non, c'est vraiment Denommé. Alors, Maxime Denommé est avec nous pour nous parler de son rôle et de la pièce Dracula, un nouveau règne du mal qui est présenté au Théâtre Denis Dupelletier du 17 mars au 14 avril. On poursuit la conversation au retour de la pause.
Écoutez au quotidien avec Hélène Denis.
Et en studio, toujours en compagnie de Maxime Denommé, qui incarne Dracula dans la pièce Dracula, un nouveau règne du mal, mise en scène par Frédéric Dubois. Vous me disiez, Maxime, que c'est la première fois que vous travaillez avec lui. Qu'est-ce que sa mise en scène propose?
C'est un très bon choix. Quand quand Claude est décédé, il fallait trouver un remplaçant. Il est vraiment très bon. Il est très à l'écoute de ce que ça raconte. Marie-Claude aussi est très
Celle qui réceptive. Signe l'adaptation,
ouais. Celle qui écrit le texte, Marie-Claude Verdier. On est rendu à la V10, là, la version 10. Ça fait longtemps qu'on la lit, on essaie
ça
de voir...
Ça fait longtemps, ça fait combien de temps?
Ça fait 5 ans qu'elle est là-dessus.
Ah ouais.
Elle a travaillé longtemps avec Claude. Mais ça fait à peu près un an que nous, on la gagne, on la lit, puis on a des commentaires. Oui, mais telle affaire, est-ce que ça... Parce que quand on est en science-fiction, il faut que tout se puisse, là.
Oui.
Fait que c'est pas évident. Mais elle est vraiment incroyable, Marie-Claude. Elle nous arrive avec des nouvelles versions où elle a tout pris en compte, nos interrogations. Fait que on a une version qui se tient. Tout le monde est content. La mise en scène, ça va très bien.
Ouais, vous parliez d'un bunker sur scène. Qu'est-ce qu'on va voir?
C'est qu'on commence vraiment très à l'avant-scène, à l'appartement des jeunes. C'est comme un appartement de geek, là, où tous les jeunes sont et qui rêvent d'aller rencontrer David Rand, qui est Dracula. Et plus ça va, plus les murs se lèvent pour... on prend toute la profondeur du théâtre. Alors, c'est vraiment un effet de perspective. Le décor est assez grand et vaste, mais en même temps très sobre, parce que c'est comme un bunker vide, en fait, au final. Là.
Et c'est très contemporain, là. Vous portez pas de cape noire, vous n'avez pas les dents de vampire.
Non, on n'est pas dans le vampire.
Il n'y a pas de crucifix, d'ail, etc.
Non.
Aucun clin d'œil à ça.
Oui, il y a des clins d'œil, mais pas les canines.
Est-ce qu'il y a de la musique sur la scène?
Oui, il y a beaucoup de musique, oui. Les scénographes se paient la traite, là. C'est un show qui permet quelque chose d'assez épique.
Oui. Et il y a toujours la jeunesse, les étudiants qui vont voir la pièce, les autobus jaunes, comme en parlait Mario Gérard dans la presse.
Oui, c'est la 3e ou 4e fois que je joue là, puis c'est vraiment... parfois, c'est plus difficile pour la concentration quand les jeunes sont un peu plus
dissipés. Ouais.
Mais en même temps, la réaction ne ment pas. Là.
C'est ça.
Puis ce qui est bien aussi, je trouve, avec cette année, avec la saison que Claude a fait avant de partir, c'est que ça se passe. Là. Je me rappelle au lancement de saison, je lui ai même dit sur scène, c'est incroyable à quel point ta saison elle est forte, là. De
elle captive, je pense à Agamemnon, là,
Agamemnon and the Ring,
un tabac, là.
C'est vraiment une belle façon de raconter les Atrides aux ados, ça marche. La réaction des ados, ça ne ment pas. C'est là que j'ai hâte de voir, parce qu'on sait dans quoi on joue quand on rencontre le public, là. C'est là qu'on comprend tout à fait qu'est-ce qu'on est en train de faire. Puis j'ai bien hâte de rencontrer ces jeunes-là à partir de la semaine prochaine. Ouais.
Est-ce que vous avez découvert le théâtre adolescent, vous, le théâtre sur une scène là, vivante? Là?
Oui. Mon premier spectacle, c'était à Denis Pelletier.
Une sortie culturelle?
Absolument.
Scolaire,
c'était Ubu Roy, et c'est Marc Favreau qui jouait Ubu.
Favreau, qui était Sol aussi.
Oui,
et est-ce que c'est ce genre de sortie-là qui vous a donné envie de pratiquer le métier?
Oui, mais j'avais déjà eu la piqûre en faisant des cours d'art dramatique au secondaire. Mais c'est vraiment à cet âge-là que je me suis dit, je veux faire ça.
Oui.
Et j'ai annoncé à mon père de... On était sur une ferme à Sainte-Brigitte-d'Iberville. Mais mes parents étaient dans la salle quand j'ai découvert aussi ma passion, puis que j'étais doué pour faire le cabotin, finalement, faire rire les gens.
Et, le public.
Comme ils étaient dans la salle, ils ont découvert en même temps que moi. Fait qu'ils ont toujours, ils m'ont toujours encouragé à quitter la ferme. Alors, mon père a vendu les vaches, puis je suis parti. Au Cégep Saint-Laurent, étudiant théâtre.
Ah oui, parce que vous voyez, avant de découvrir votre talent comme comédien, vous voyez comme la relève à la ferme?
Il a espéré autre chose pour moi.
Oui. Parce que c'est du 7 jours sur 7. Vous parlez aussi à une fille d'agriculteur.
Ah oui.
Et Maxime, vous étiez l'invité de Denis Martin Chabot la semaine dernière pour parler de la mise en scène de la pièce À partir de là, qui est présentée jusqu'au 10 avril dans la petite salle de la Licorne, avec, paraît-il, une révélation, Félix-Antoine Bénard. Il faut voir cette pièce. Et vous allez jouer aussi dans le conte de Monte Cristo.
Oui.
Vous êtes bien occupé d'après l'œuvre d'Alexandre Dumas, mise en scène par Serge Denoncourt, qui va prendre l'affiche à Montréal, Gatineau, Québec. Ça commence le 26 juin, la salle Pierre-Mercure à Montréal. Et est-ce que vous êtes capable de répéter votre rôle dans Le Comte de Monte Cristo en même temps que travailler sur Dracula ou comment ça se passe?
Ça va venir, mais pour l'instant, je ne suis pas du tout là. Je viens de finir la mise en scène. Donc je suis tout pour Dracula. Et quand je vais commencer, ça va être réglé. Je vais me concentrer sur l'autre.
OK. Un projet après l'autre, pas en même temps.
C'est-à-dire que j'en répète en même temps, mais ma tête ne peut pas être complètement à une
Non.
À deux places en même temps.
Oui. Surtout avec le rôle que vous avez. Là,
oui.
Vous en... J'imagine... Est-ce qu'il y a beaucoup de textes à apprendre pour Dracula?
Oui, non, c'est moins, c'est pas si pire. Il y en aura plus pour Comte de Monte Cristo.
Ah oui, OK.
Oui.
J'ai vu les...
Il faut pas que je vois que je pense trop loin, parce que je vais angoisser.
Vous allez tilter. Oui, oui.
Mon ami me disait un jour à la fois, je dis non, une répète à la fois.
Ah oui. Alors, on va vous laisser à vos secondes précieuses. Est-ce que vous répétez aujourd'hui?
Oui.
Oui?
Mais en fait, j'enseigne aussi au conservatoire.
Ah, oui. Qu'est-ce que vous enseignez? L'interprétation?
Oui.
Oui. Bon, bien, Maxime Denomé, merci de votre générosité, vous qui êtes très, très pris par les temps qui courent. Et on vous dit le mot de Cambronne pour la grande première, mais pour la série de représentations de Dracula, un nouveau règne du mal qui prend l'affiche le 17 mars au Théâtre Denise Pelletier. On a bien hâte de découvrir cette pièce. Merci, Maxime.
Merci beaucoup.